J'aimerais qu'on puisse applaudir le Seigneur parce qu'il est bon, il est digne. Gloire à toi, Jésus. Merci au Seigneur de sa présence. Merci à toute l'équipe. Louange aussi. Et je ne serais pas surpris que plusieurs soient touchés. N'hésitez pas, si vous avez été touchés dans votre corps, que vous voyez vraiment un être mieux, une guérison, venir nous le dire, et qu'il y ait des témoignages de guérison. Moi, je suis convaincu que Dieu, il agit, et je me réjouis d'entendre ce que Dieu a fait, ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. On se réjouit vraiment d'aller de l'avant. Moi, je suis tellement reconnaissant de ce qu'on vit semaine après semaine, lorsqu'on se rassemble ici ou dans les différents groupes. J'ai de la peine à imaginer que ça fait presque jour pour jour 6 mois qu'on a commencé nos cultes. Ça fait seulement 6 mois, puis d'un autre côté, il me paraît qu'on a... J'ai l'impression qu'on a vécu déjà tellement de choses que ça fait plus longtemps. Et au départ, on a vraiment pu d'abord placer la vision qu'on avait sur notre cœur, ensuite la mission, et puis on a pu prendre les valeurs qu'on a les unes après les autres l'année passée. Si vous ne les avez pas entendues, vous pouvez réécouter ces messages sur le site. Et la vision, c'est où nous voulons aller. La mission, c'est ce qui brûle dans notre cœur. Et les valeurs, c'est la façon dont on a envie de les vivre. Et puis là, en 2022, depuis le début de cette année, en tout cas pour ce premier semestre, ce qu'on a vraiment reçu dans notre cœur, c'était d'approfondir certains points de mission qu'on avait. Et puis, on a pu le faire depuis début janvier en prenant un des points forts de notre mission. Le premier, c'est vraiment de rencontrer Dieu et de cultiver sa présence. Et puis, on a pu creuser avec un premier message sur « Il y a plus », ensuite un autre message sur la louange, sur la prière. Et puis il y a 15 jours, Peter Protero qui nous a parlé de comment aller dans ce fleuve, comment poursuivre, aller plus loin, persévérer, aller toujours plus profond, comment même perdre le contrôle au-delà du bien-être, mais de se laisser vraiment complètement toucher dans sa présence. Ce fleuve qui sort du temple et qui se déverse dans le monde. Et je crois que c'est vraiment une belle transition pour un peu le point de mission suivant hein, qu'on aimerait un petit peu approfondir ces prochains temps. Et notre deuxième point de mission, elle s'en fiche aussi sur le site, c'est vraiment de conduire chacun à être transformé pour entrer dans un mode de vie à l'image de Jésus. Donc après un peu cette première série de quelques semaines qu'on a fait de cultiver la présence de Dieu, notre nouvelle série s'intitule maintenant vraiment d'être transformé par son esprit. Et c'est d'ailleurs un peu synchro avec le livre qu'on lit. Il y a pas mal de gens qui sont dans des groupes ressources qui lisent un livre Chasseur de Dieu. Et après avoir parlé de la présence de Dieu qui est présent partout, mais qui aime se manifester dans des lieux et des endroits donnés pour agir de façon particulière, il était question ces derniers temps aussi du prix à payer pour ça. Et l'auteur, d'ailleurs, il va très fort, il insiste beaucoup, notamment sur le fait de mourir pour Christ qui vit en nous, et c'est un aspect qui est bien biblique. Oui, on meurt avec Christ, comme l'image du baptême, où on est enseveli, on meurt avec Christ, puis quand on sort de l'eau, c'est comme si on ressuscite tout à nouveau en nouveauté de vie. Et il parlait aussi qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors d'un côté, c'est tellement vrai, parce que la sainteté de Dieu est tellement forte. Sans la grâce de Dieu, on serait tous morts ce matin, personne d'entre nous serait là. Mais comme j'aime souvent le dire, lorsqu'on entend un prédicateur ou lorsqu'on lit un livre, on se nourrit des bonnes choses qu'il amène. D'ailleurs, quand j'étais petit, puis qu'on mangeait des tartes aux cerises, les gens, normalement, quand ils mangent une tarte aux cerises, ils mangent la tranche comme ça. Moi, je prenais une petite cuillère, puis je mangeais une cerise après l'autre dessus. Puis après, j'enlevais chaque fois le noyau l'un après l'autre. Et puis, après, il restait juste le fond de tarte que je pouvais encore manger. Parfois, on met le focus tellement sur les noyaux qu'on perd le goût entier de la tarte. Et puis, c'est comme j'ai déjà dit une ou autre fois, l'a dit aussi dans notre groupe ressources, des fois quand on mange du poulet, moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous aimez ce poulet bien grillé, la peau c'est tellement bon, puis la chair, ça vous donne l'appétit pour dans une heure, comme ça. Mais quand vous mangez du poulet, vous n'êtes pas offusqué quand tout à coup vous tombez sur un os. C'est normal, vous l'enlevez ou vous le rongez, puis vous continuez de chercher qu'est-ce qui est bon. Et ce que j'aimerais dire, c'est profitons du poulet et ne mettons pas le focus sur les os. Et je crois que c'est l'image aussi de l'optique à avoir. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez tout et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Puis il n'est pas dit d'examiner tout et de rejeter ce qui est de mauvais. Donc on ne va pas juste analyser tous les noyaux de cerise ou les os, mais retenir ce qui est bon. Et c'est comme ça que les pharisiens, ils examinaient tout ce que faisait Jésus. Ils n'ont pas pu vraiment, à cause de ça, apprécier la nourriture que Jésus leur a amenée. De ce qu'il amenait. Ils n'ont pas tellement pu apprécier les miracles, les guérisons, les enseignements, tellement ils voyaient que les noyaux de cerise, pour dire ça comme ça. Il y avait le jour du sabbat, il y avait ceci, cela, il y avait toujours autre chose. Et je crois que Dieu veut nous donner une maturité et un recul pour entendre, lire et se nourrir des choses et prendre ce qui nous nourrit, ce qui est bon. Alors même si la Bible, c'est entièrement la parole de Dieu, je crois que même pour la parole de Dieu, il désire nous donner par son esprit de révélation quelle est la manne du jour et qu'est-ce qui me nourrit pour aujourd'hui, pour demain. Et pas forcément s'attarder aux os. Moi, des fois, il y a des os, tout à coup, il y a un verset qui est compliqué, ou bien je tombe sur un immense os, c'est une généalogie de 3 pages. Alors, si le matin, j'ai tant de temps avant d'aller au travail, ben, je vais dire, ben, je laisse l'os, puis je vais nourrir la viande. Et je vais prendre ça. Et puis pas juste m'attarder au seul verset que je ne vais pas comprendre la journée. Non, je vais peut-être passer au suivant, puis me nourrir la viande. Mais parfois, ça vaut le coup aussi de décortiquer l'os, puis de comprendre ce qu'il y a derrière, de fouiner, de chercher. Puis tout à coup, il y aura une perle, même dans une généalogie ou dans un verset qu'on ne comprend pas. Mais globalement, je suis convaincu que ce que Dieu désire faire, c'est vraiment nous nourrir. Des hommes et des femmes qui nous nourrissons de sa parole, de sa présence, et qui devenons de plus en plus matures. Et il n'est pas prévu qu'on soit premièrement des analystes. Et avec cette optique de trouver de la viande nourrissante, plus une chasse au trésor qu'une chasse à l'os. Et d'ailleurs, dans notre groupe ressources, on a vraiment pu avoir des bonnes discussions. Et c'est intéressant de pouvoir débattre, dire là, ce qu'on trouve bien, pas bien, c'est bien, il faut continuer de le faire. Mais surtout ensuite, on a pu vivre des temps de prière où Dieu nous a visités, vraiment comme un esprit de réveil qui était là. Et je désire toujours plus ça dans ma vie, dans les groupes, dans l'église ici. Vraiment que le Saint-Esprit nous visite et nous fasse aller plus loin. Et je crois que c'est ça le but avant tout. Et ce chapitre qu'on est en train de lire dans Chasseur de Dieu, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de lire le livre pour comprendre le message que je vais dire aujourd'hui. Mais c'est juste pour faire le lien, puis je trouve important aussi de juste gérer un peu ça. Le chapitre 4 de Chasseur de Dieu, il est vraiment synchro avec un peu cette nouvelle série d'être transformé par l'Esprit. D'ailleurs, il insiste beaucoup sur la mort à soi-même. Et avant d'aller pleinement dans le sujet de ce que j'ai vraiment à cœur de partager ce matin, j'aimerais contrebalancer juste un petit coup. Notamment quand il parle du souverain sacrificateur, où quand il allait dans le lieu très saint, il devait être vraiment tellement saint, mais il mettait aussi une corde à sa cheville, au cas où, s'il trouvait un péché, et puis qu'il tombait raide mort, il pouvait encore le tirer du lieu très saint. Et d'ailleurs, il ne dormait pas de la nuit, et ses collègues empêchaient qu'il s'endorme de peur qu'il fasse un mauvais rêve, pas très saint pendant la nuit, et puis qu'ensuite, il tombe raide mort dans le lieu très saint. Ça, c'est ce qui est notamment mis dans le livre, et moi, en lisant ça, j'ai trouvé plein de bonnes choses, puis j'ai aussi pensé à l'inverse, dans la Bible où il y a ce fils prodigue qui vient vers le Père. Et le Père, il n'attend pas qu'il soit saint, qu'il soit nettoyé, qu'il soit parfait, qu'il soit bien habillé, mais il le prend dans les bras. Il prend le fils prodigue dans les bras alors que le fils prodigue, il pue encore le cochon. Alors du coup, après le Père, il veut peut-être aussi sentir un coup le cochon, il le prend, vu qu'il s'était nourri de la nourriture des cochons, il le prend dans les bras. Il l'accepte, il l'aime, et ensuite, il le transforme, il le restaure. Bien sûr, quand on s'approche du Dieu Saint, si on viendrait comme ça, on serait peut-être tous morts, comme dit Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix et qu'il est mort afin que je vive et que je puisse m'approcher de Dieu tel que je suis. On peut aller devant Dieu tel qu'on est. C'est ça la bonne nouvelle aussi de cette nouvelle alliance. Et comme le Fils prodigue, je peux venir vers lui tel que je suis, mais ensuite, il va me restaurer, il va me guérir et il va me transformer. Mais il n'attend pas que je sois transformé pour que je puisse aller vers lui. Mais si je reste comme je suis, le Saint-Esprit aura finalement assez peu de place en moi. Si je désire que le Saint-Esprit fasse plus que me visiter, puis que je passe un bon moment, mais j'aimerais qu'il puisse vraiment habiter en moi, s'installer, habiter dans ma vie, comme la Bible dit qu'on soit un temple, que mon corps soit comme un temple vivant, ben, je vais devoir, je pense, un petit peu désencombrer ou arranger 2-3 choses pour qu'il puisse être là. Imaginez par exemple un célibataire qui a vécu 15 ans tout seul dans son appartement, puis qui va se marier, et puis quand sa femme va venir pour emménager, il devra peut-être bouger quelques objets ou adapter un peu pour qu'il y ait de la place. Surtout si elle vient avec pas mal d'affaires. Par exemple, dans la pharmacie de sa salle de bain, il devra enlever son shampoing, son déo et sa brosse à dents, les 3 objets, pour qu'elle puisse amener tout le reste dedans. Mais dans notre vie, pour que le Saint-Esprit puisse prendre son aise, puis se manifeste toujours plus, puis que ce ne soit pas juste un visiteur de passage, parce que quand on va en visite chez quelqu'un, on ne prend pas sa brosse à dents, en principe, mais qu'on désire qu'il s'installe, puis qu'il puisse vraiment être en nous. Si on ne change rien du tout, dans notre vie, ben on va profiter de bons moments ou de la grâce de Dieu, mais il ne va pas forcément nous faire aller plus loin. Et si on désire aller plus loin, puis être ces temples remplis de sa présence, que le Saint-Esprit habite véritablement en nous, qu'on puisse être sa bouche en parlant, ses mains pour guérir ou imposer les mains, ou simplement ses jambes aussi pour aller, ben je pense qu'il y a des ajustements à faire à un moment donné dans notre vie aussi. Et Jean-Baptiste dit la chose suivante dans Jean 3,30, il dit « Il faut qu'il grandisse, Jésus, et que moi je diminue. » Et j'aime bien parce qu'il n'est pas dit « Il faut que je diminue, ainsi il pourra grandir. » On accueille le Seigneur dans notre vie, il grandit, prend de la place, et moi je diminue pour y laisser toute la place. Et c'est pas que moi je vais arrêter de vivre et me mortifier et tout faire pour que enfin quand je suis vide, il puisse venir. Mais j'accueille le Seigneur dans ma vie et il prend toujours plus de place. Et moi je laisse, je désencombre ma vie. Je laisse les choses qui sont pas si primordiales pour qu'il prenne toujours plus de place. Ma chair a déjà été crucifiée avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Même si des fois il faut frapper au vieil homme qui essaye encore de nager, qu'il est bien noyé au fond. Mais pour vraiment que le Saint-Esprit puisse se manifester dans nos vies. Et je crois que c'est magnifique de vivre la présence de Dieu, d'expérimenter sa présence. Mais si ma vie n'est pas transformée, je vais vivre ces moments-là, mais je ne vais pas forcément aller plus loin, vraiment, dans ma vie. Et je me souviens, lorsque je me formais au ministère, un orateur mentionnait, j'ai déjà des fois mentionné ici ou dans des entretiens, il disait, tu sais, dans le ministère, enfin, il enseignait à tout le monde, pas juste à moi, mais il disait, il y a trois choses vraiment importantes. Pour aller plus loin, pour rentrer dans l'appel qu'il y a dans notre vie, pour être utilisé par le Seigneur. La première, c'est le caractère. La deuxième, c'est le caractère. Et la troisième, c'est le caractère. Et je suis convaincu que le seul moyen pour aller plus loin, à un moment donné, que Dieu nous fasse rentrer dans ce à quoi il nous a appelés, dans la mesure qu'il désire, c'est qu'on laisse notre vie et notre caractère être transformés. Et j'aurais, je crois, X exemples de personnes, peut-être, que j'ai côtoyées, qui finalement... Le caractère, c'était comme si ça ne laissait pas forcément l'appel de Dieu s'exprimer à sa pleine mesure et qui passe finalement à côté peut-être la destinée que Dieu avait pour leur vie. Et là, on arrive en plein dans le thème vraiment de mon message qui lance un peu cette série « Transformée par l'Esprit ». C'est les rencontres avec Dieu qui changent la vie. On voit dans la Bible, il y a des gens qui rencontrent Dieu et ça transforme leur vie. Et moi, je suis convaincu que si on rencontre Dieu vraiment, plus rien n'est comme avant. C'est pas possible de continuer de vivre comme avant. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Qu'on rentre dans un processus de transformation ou pas, mais d'avoir rencontré Dieu, notre optique va de toute façon changer. Je me souviens d'un cousin qui avait un pied dans la foi puis un peu un autre dans le monde, qui avait dit à sa maman « Pourquoi tu m'as parlé de tout ça ? Pourquoi tu m'as parlé de Dieu ? Pourquoi tu m'as fait le rencontrer ? Parce que je ne pourrais plus voir les choses comme avant. Je ne me sentirais plus jamais autant libre d'aller dans le monde ou comme ça. » Le fait d'avoir rencontré Dieu une fois, ça change complètement l'optique, qu'on le suive ou pas après. Et lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, c'est une rencontre, il le rencontre. Et Jésus, il invite le jeune homme riche qui lui demande comment faire pour aller plus loin. Il lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Et ce qui importait là, ce n'était pas qu'il ait de l'argent ou pas, ce n'était pas ça, mais c'était jusqu'où il était prêt à être transformé dans son cœur, dans ce qui comptait le plus. Est-ce qu'il était prêt à être transformé pour suivre Jésus ? Et c'est John Bevere, qui est un pasteur et auteur d'excellents livres, qui a dit la chose suivante, « Tu ne peux pas appeler Jésus ton Seigneur et continuer de vivre ta propre vie. Tu ne peux pas appeler Jésus ton Seigneur et continuer de vivre juste ta vie pour toi. » Parce que moi, je suis convaincu que rencontrer Dieu, véritablement, quand on le rencontre vraiment, ça amène une transformation. À un moment donné, il faut bifurquer, même si c'est à l'adhère, mais il faut bifurquer. Et entendre parler ne va pas forcément changer notre vie, mais rencontrer Dieu, oui. On peut entendre et lire plein de livres, ça ne va peut-être pas changer notre vie, mais rencontrer Dieu, oui. Et avant de poursuivre plus profondément encore notre thème, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques exemples. Déjà, au niveau de l'Ancien Testament, si on prend Jacob, la première fois qu'il rencontre Dieu, c'est alors qu'il dort. Il est mis qu'il a pris une pierre comme un coussin. Alors à moins qu'il soit le précurseur du coussin mémoire de forme, et puis que le caillou ait épousé la forme de sa tête, la première transformation qu'a vécu Jacob, c'est quand il s'est levé, il avait la tête plate d'un côté. Oui, ça transforme de rencontrer Dieu. Non. Non, il a vécu une forte rencontre. Il avait cette vision d'une échelle, des anges qui montent, qui descendent. Cette rencontre était tellement forte qu'il a pris cette pierre à un moment donné, si elle n'était pas trop plate à la fin, et puis il a versé de l'huile, d'onction. Il a dit ce lieu est Bethel, la maison de Dieu. Il a fait un autel. Et là, cette rencontre était tellement forte qu'il a fait la promesse, je cite Genèse 28, 22, que ce lieu sera la maison de Dieu et qu'il donnera la dîme de tout ce qu'il recevra. Et cette rencontre, elle a déjà transformé sa vie. Et ce qui importait pour lui avec cette transformation maintenant, c'était de bâtir la maison de Dieu et de donner tout ce qu'il a pour ça avant le reste. Mais il y a une autre rencontre puissante que Jésus a eue, que Jacob a eue avec Dieu, sa Peniel. Jacob qui rencontre l'ange de l'Éternel, qui lutte avec Dieu à tel point que sa hanche est déboîtée. Et je vous avais raconté dans un des premiers messages ici, c'était que l'été passé, on avait fait un tour en éléphant. J'avais aussi la hanche déboîtée tellement l'éléphant était large. Hein, quelle idée! Et puis on était obligé d'écarter les jambes comme ça. Moi, j'ai été restauré. Jacob, il a continué de boiter. Par contre, lui, c'était autre chose. Hein, parce qu'au moins, il peut raconter un témoignage qu'il a rencontré Dieu. Typiquement, si je raconte que j'ai été sur un éléphant, ça n'a pas changé votre vie. Bon, il n'était pas rose, donc ça, c'est déjà bien. Mais surtout, ce qui a changé dans la vie de Jacob pour cette rencontre, c'est qu'à un moment donné, c'est que Dieu lui donne un autre nom. Dans Genèse 32, son nom change. Dorénavant, il n'est plus appelé Jacob, mais Israël. Et c'est une précision de la promesse que Dieu lui a donnée déjà en Genèse 28, qu'il sera le père d'un peuple comme Abraham, Isaac et lui, Jacob, et qu'il lui donnerait un pays. Et rencontrer Dieu a transformé sa vie et comme repréciser la destinée véritable qu'il avait. Et il y a d'autres exemples. Je passe plusieurs exemples avant qu'on aille encore plus profond. Récemment, je vous parlais de Moïse. C'est aussi un exemple clair d'une transformation en soi. Rencontrer Dieu a transformé sa vie, mais il n'a pas juste vécu un moment fort et senti l'appel de Dieu. Au départ, il a essayé de faire un peu par lui-même, sans être transformé, et de rentrer dans l'appel de Dieu. Et ça peut nous arriver. On aime Dieu, on a envie de le suivre, on a envie de faire plein de choses pour le Seigneur. Mais si on ne se laisse pas forcément transformer, la motivation, le désir peut être bon, mais sans véritable rencontre qui transforme le fond de qui on est, on va être des fois bien maladroit. Et ça a été le cas de Moïse, qui a essayé de faire par lui-même, puis qui a même tué un Égyptien pour faire avancer le Schmilblick plus vite, puis délivrer le peuple. Mais à cause de ça, il va perdre bien des années, ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Il a perdu du temps plutôt que de laisser peut-être son cœur être travaillé au plus profond. On voit dans Genèse 2, 23 qu'il est dit « longtemps après cet épisode, il a vraiment perdu du temps ». Et c'est quelques versets plus tard qu'on va lire que Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, le buisson en flamme qui ne se consume pas, où il est dit dans Exode 3 que le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson et lui dit « Moïse, Moïse ». Et Moïse répond « Je suis là ». Et on voit que Moïse est un chasseur de Dieu. Déjà, il fait un détour pour voir. Il fait un détour pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il va chercher. Et là, Dieu lui parle. Il y a sa part d'aller s'approcher de Dieu. Et il y a la part de Dieu qui lui parle, qui se révèle de façon spectaculaire. Et Dieu va lui parler et l'appeler à sauver son peuple. Et il l'envoie en Égypte pour faire sortir le peuple. Et ce Moïse, quelque part, je ne connais pas tout son caractère, mais ce côté un peu peut-être impulsif, justicier, ce bègue qui ne savait pas parler en public, Dieu va l'utiliser pour diriger un peuple. Il va même l'utiliser pour aller négocier devant un des plus puissants du monde, Pharaon, et d'avoir une patience. Parce que quand vous lisez les plaies d'Égypte, à chaque fois, on croit que c'est bon, qu'ils vont pouvoir libérer le peuple. Et non, il avait une patience. Mais ce n'est pas le même Moïse qu'on voit au début, qui est tellement impatient qu'il tue déjà un Égyptien. Il a été transformé par Dieu. De rencontrer Dieu, ça l'a transformé. Et Moïse, qui a rencontré Dieu plus d'une fois sur la montagne, notamment une fois à tel point que son visage, on en parlait récemment, son visage éclairait tellement fort la gloire de Dieu qui se manifestait qu'on devait mettre un voile sur sa tête. Et il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament, on reviendra à un plus tard, mais dans le Nouveau Testament, il y a l'exemple de Paul qui est tout à fait spectaculaire, qui s'appelait Saul, qui persécutait les chrétiens, et sa rencontre avec Dieu va le renverser au propre et au figuré. Et il est retourné comme une crêpe. Il va devenir cet apôtre, cet écrivain d'une grande majorité, d'une grande partie du Nouveau Testament que l'on a. Mais il y a un autre exemple aussi, c'est Zachée, qui est aussi un exemple de changement de vie, d'une transformation totale en rencontrant Jésus. Zachée est un chasseur de Dieu, mais sa vie n'a pas toujours été transformée. Il chasse la présence de Dieu. Il désire voir Jésus, il a entendu parler que Jésus était quelque part. Et il va vouloir aller pour voir sa présence, pour être vers lui. Et il fait tout pour d'ailleurs. Et ça va payer. Il se donne les moyens. Pourtant, il aurait eu toutes les excuses pour voir Jésus que de loin. Vu qu'il était tellement petit, il dit, bon, ben, c'est pas grave. S'il y a les plus rapides, les plus grands et les plus allumés, ils peuvent aller tout près de Jésus, puis ils me raconteront bien ce qui se passe. Non, il avait envie lui-même de voir Jésus. Et il se donne les moyens. Des fois, comme Zachée, on pourrait mentionner toutes les circonstances de notre vie, notre passé, notre présent, nos préoccupations, pour voir Jésus de loin, et puis laisser juste quelques spécialistes aller tout près de Jésus nous raconter de ce qu'il fait. Mais lui, il s'est donné les moyens, il a tout fait pour, il a passé par-dessus l'obstacle de qui il est, il passe par-dessus la barrière qui l'empêche de voir Jésus. Non, Zachée, vraiment, un chasseur de Dieu, il veut voir Jésus de ses propres yeux. Et il ne sera pas déçu, il est monté sur un arbre, un sycomore, pour le voir. Et Jésus s'arrête, au moment où il passe, il s'arrête pour lui parler. Et ça, c'est la première rencontre. C'est déjà ça, une rencontre. Il parle avec Jésus, c'est déjà une rencontre. Il y a un peu de distance, parce qu'il est sur son arbre, Jésus est en bas, c'est un peu comme le corbeau et le renard, sauf qu'il n'y a pas de fromage, là. Et Jésus l'invite à aller plus loin que cette rencontre. C'est déjà une rencontre, mais il lui dit, mais il y a plus que ça encore. Et il lui propose d'aller chez lui. Et là, ça veut dire quoi? Que Jésus, il va voir Zachée, comme il est. Il va voir comment c'est chez lui. Il va aussi voir dans sa vie. C'est autre chose que juste entendre une parole. Et c'est là qu'on pourrait dire stop. Et dire, c'est bon, j'ai déjà rencontré Jésus. Je suis dans mon confort, j'ai un peu de recul, faut parler. Je suis sur ma branche, j'ai vu Jésus, je l'ai entendu. Et Jésus, il va aller encore plus loin que cette première rencontre avec Zachée, il va aller chez lui. Et là, c'est comme tout à coup, c'est intime, c'est chez lui. Il va voir tout ce qui se passe. Et là, c'est une vraie rencontre que Jésus lui propose. Et il est mis dans Luc 19,6 que Zachée s'empressa de descendre et il reçoit Jésus avec joie. Et c'est là cette deuxième étape d'une rencontre bien plus puissante que la première sur l'arbre, sur sa branche, qui va transformer vraiment Zachée, où ils seront tête à tête, à table, que sa vie va être transformée. Et ce chasseur de Dieu, bien qu'encore imparfait, va laisser sa vie être transformée de fond en comble. Et contrairement peut-être au jeune homme riche, on ne sait pas trop la suite, lui va laisser Dieu être transformé dans son cœur. Et ça va se voir. Lui qui avait arnaqué les gens en étant aux impôts, il ne va pas juste donner la dîme, mais il va donner la moitié de son argent aux pauvres, puis il va rendre le quadruple à celui qui l'a arnaqué. Quelle transformation de cœur! Et il était dans la joie, il ne l'a pas fait en pleurant parce qu'il était obligé d'être transformé, mais il s'est réjoui d'être transformé dans sa vie. Et si on prend Pierre, le disciple, lui, c'est plutôt tout un processus de transformation qui a duré, en tout cas déjà plus de 3 ans, même plus. Parce qu'après 3 ans, Pierre, il renie encore Jésus. Pourtant, ça fait 3 ans qu'il a passé jour et même nuit avec. Il aurait eu tout de quoi être à l'atelier de transformation avec Jésus. Et c'est la rencontre avec Dieu, avec la visitation du Saint-Esprit qui va véritablement marquer la vie de Pierre et qui va comme donner un nouvel élan à ce processus de transformation dans sa vie. Lui qui agissait bien humainement, il avait déjà fait plein de choses, il avait déjà prié pour des malades, il avait marché sur l'eau, mais la visitation du Saint-Esprit à la Pentecôte va le bouleverser et c'est là qu'il va commencer à prêcher qu'il y a des miracles, il y a des choses qui vont commencer à se passer, que la première église est implantée. Pierre a rencontré Jésus et il a été transformé quelque part au fur et à mesure. Et on vient de voir avant des transformations spectaculaires, presque instantanées, Paul, Zachée, mais souvent c'est un processus. Souvent c'est un processus, c'est un cheminement. On se convertit, on rencontre Dieu, on se convertit. Des fois, c'est pas toujours dans le même ordre, mais on se fait baptiser d'eau, on est baptisé du Saint-Esprit. Il y a un changement, il y a des choses qui se produisent et ça va de l'avant. Mais choisir Dieu, rencontrer Dieu, je crois que c'est aussi être d'accord de s'installer sur le tour du potier, le tour qui tourne, et de laisser les mains du Seigneur, les mains du potier nous transformer. Parce que je suis convaincu que notre appel est d'être des vases d'honneur. Et Paul, il en parle à Timothée dans 2 Timothée 2,14. Et heureusement, il nous utilise déjà dans notre imperfection. Il n'attend pas qu'on soit un vase parfait pour nous utiliser. C'est ça qui est beau. Mais constamment, il désire quand même nous toucher et vivre des moments intenses avec nous. Vivre une rencontre avec Dieu, bien sûr que ça nous encourage, que ça nous produit du bien-être, que tout est dans la présence de Dieu. Waouh, ça rafraîchit, c'est génial. Mais l'idée de Dieu, c'est de nous amener toujours plus dans ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire des vases d'honneur pour sa gloire. Et de ses mains, parfois, il va appuyer un peu, toucher, alors qu'on est cette terre sur ce tour. Il va peut-être toucher un nœud, ou une bulle, ou un endroit. Ou peut-être qu'il va nous étirer pour qu'on devienne plus grand, pour qu'on puisse avoir plus de la vie du Seigneur en nous, agrandir le vase que nous sommes. Et en pensant à ce passage, j'ai soudainement eu cette pensée de ce verset qui dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On en a parlé récemment. Alors on peut le comprendre dans le but du verset qui est correct, que si on met du vin nouveau dans une vieille outre, elle va casser. Mais moi j'ai pensé que c'est ce que je désirais en tout cas pas pour ma vie. Avec le temps, devenir une vieille outre. Et puis juste voir les autres être remplis de vin nouveau. Ou d'avoir des nouvelles personnes qui se convertissent, qui ont de la pêche et la passion. Non. Moi, je désire rester ce vase malléable qui peut avoir la vie d'aujourd'hui du Seigneur et pas juste le vin d'hier. Je désire toute ma vie être une outre fraîche, un vase modelé constamment qui peut toujours contenir la vie que Dieu désire faire couler dans ma vie aujourd'hui et faire déborder sur la vie des autres aussi, aujourd'hui et demain. Et ça, c'est cette transformation. Et je pense que c'est la différence entre se laisser rafraîchir un peu par le Seigneur. C'est comme si on montait sur le tour. Et puis ça commence à tourner, puis on a un peu le tournis, c'est un peu les carreaux du Seigneur. On dit waouh, ah, c'est bien la présence de Dieu. Et puis ça a tourné un peu. Et à un moment donné, dire Seigneur, je suis d'accord que tu appuies légèrement, puis tu commences à me transformer et ça tourne, puis commence à modeler notre vie pour qu'on soit ces vases d'honneur. Et là, Dieu commence un processus. Le potier va me transformer seulement si je dis ok, si je suis d'accord, il ne va jamais le faire sinon, mais je dis Seigneur. Tu peux commencer un peu à appuyer. Vas-y, agrandis le vase que je suis. Je désire plus de ta vie en moi. Tu peux lancer le tour. Tu peux faire que ça tourne. Tu peux presser. Les anciens tours, on presse les pieds pour que ça tourne. Fais tourner. Et tu peux presser. Tu peux modeler. Tu peux guérir mon cœur. Tu peux agrandir. Tu peux me transformer. Ben, je désire d'être un vase d'honneur pour ta gloire. Et vous savez, je crois que c'est le seul moyen pour aller plus loin. On a commencé l'année en demandant plus du Seigneur. Plus du ciel, que ça tombe du ciel. Alors, amen, moi j'ai tellement envie de ça aussi. Mais je crois que le plus du ciel, c'est pas juste une pluie qui va tomber du ciel. Aller plus loin, c'est aussi quand notre vie est transformée et puis qu'on peut avoir plus de Dieu dans notre vie parce qu'on a été transformé, guéri. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le potier, c'est l'amour personnifié. Et donc, il va le faire avec amour. Il aime le vase que nous sommes. Alors, il va pas le casser, il va pas vouloir nous casser, mais il veut nous rendre encore plus beaux. Il veut rendre ma vie, il veut rendre ta vie encore plus belle, encore plus grande, qu'il puisse avoir encore plus de vie dedans. Et Ésaïe 64, verset 7 nous dit, « Toi, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » C'est lui, notre potier, ce Dieu d'amour. Alors c'est comme quand soi-même on crée quelque chose. Si vous faites quelque chose d'artistique ou vous fabriquer quelque chose, vous avez envie que ça soit le mieux possible. Ben Dieu est pareil avec nos vies. C'est lui qui nous a créés, il a envie que ça soit le vase le plus beau possible. Donc s'il veut nous transformer, c'est parce qu'il y a mieux encore pour nous. À un moment donné, si je désire que le vase que je suis puisse contenir plus de vie et puisse se déverser encore plus sur mon entourage, ben je vais des fois laisser le potier un petit peu appuyer légèrement et amener le changement. C'est pas juste une rencontre, un moment fort. Mais de façon intentionnelle, je vais rencontrer le potier régulièrement, me rendre sur le tour et être transformé. Et petit à petit, je suis transformé. Et je pense que c'est jamais fini. On reste dans ses mains et Dieu nous transforme petit à petit. Et un homme est parlant à ce propos, mais je ne vais pas prendre trop de temps sur ce personnage, Daniel. Je ne vais pas raconter non plus toute son histoire. Si vous ne la connaissez pas trop, vous pouvez lire le livre de Daniel dans la Bible. Mais Daniel, il a fait la différence parce qu'il a prié. Il avait une routine de prière. C'était pas forcément le gars le plus exubérant, spontané, mais il priait 3 fois par jour, en tout cas. Il rencontrait Dieu non seulement jour après jour, mais régulièrement dans la journée. Sa vie a été transformée. On voit que ça a affûté son esprit. Il avait des facultés folles d'interprétation spirituelle, d'interpréter des rêves tellement compliqués, il arrivait à les interpréter. Ça a aussi transformé son caractère. Il a pu tenir bon, puis pas suivre la pression, la masse, le mouvement. Il fallait que tout le monde se prosterne ou mange ceci. Il a pu tenir bon parce qu'il a été transformé dans le caractère, dans qui il était. Il a osé confronter. Je ne pense pas que c'était quelque chose d'inné, Mais c'est parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu, parce qu'il a été sur ce tour et qu'il a été modelé. Et ça a aussi transformé son intelligence, où il avait vraiment il avait une faculté de régner. Il avait une force dans le management, une autorité qui a été reconnue. Il était une place énorme, élevée dans tout l'Empire. Et jaloux, certains ont essayé de l'écarter en l'empêchant de passer ce temps avec Dieu parce qu'ils ont dû comprendre que c'était ça la clé. Et il est dit dans Daniel 6:11, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret qui interdisait donc de prier un autre Dieu que le statue, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Et je crois que si Daniel avait un pareil don d'interprétation, une sagesse telle, on voit d'où ça vient. Il était modelé, transformé, formé dans les mains de son Seigneur. Et quand on parle de transformation, ce n'est pas juste pour gommer nos défauts, mais c'est pour nous permettre de rentrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pour nous permettre de contenir la vie que Dieu désire mettre en nous. Ce n'est pas juste pour gommer notre caractère, mais c'est pour aller plus loin. Et là, on le voit bien avec Daniel. Et en résumé, j'ai bientôt terminé, mais en résumé, une rencontre avec Dieu peut changer instantanément notre vie, peut faire changer la direction de la vie, comme Zachée, comme Paul. Mais ce qui va transformer qui nous sommes et nous amener dans notre appel, finalement, c'est de rester sur ce tour du potier, comme Daniel, jour après jour. Et même lui, c'était période de la journée après période de la journée. De laisser le potier nous modeler. Et ça a été un des personnages finalement les plus importants de son temps, grâce à ça. Et je crois que rencontrer Dieu, non seulement nous permet d'être connectés à Dieu, rencontrer Dieu, non seulement nous permet de passer un beau moment dans la présence de Dieu, mais rencontrer Dieu va changer notre vie, changer notre focus, changer notre regard. Et rencontrer Dieu régulièrement va transformer qui on est à son image, à lui. 2 Corinthiens 3:18 nous dit... Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Sans voile sur le visage, c'est que ça veut dire quoi? Il faut comprendre dans le sens de révélation. Lorsque l'on a la révélation qu'on est transformé, parce que le sens même du mot révélation, c'est quand c'est dévoilé, quand on voit les choses. Donc quand on peut regarder le Seigneur en ayant ce voile ôté, c'est-à-dire la révélation de qui il est, on va commencer à être transformé. Et ce verset qui dit quand nous rencontrons Dieu, qu'il se révèle à nous, qu'a plus ce voile, et que nous le voyons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et il est mis que nous sommes transformés, et c'est intéressant parce que c'est le mot métamorpho, autrement dit, nous sommes métamorphosés. C'est une transformation, c'est un épanouissement. Et c'est le même mot, c'est intéressant, que lorsque Jésus, il est question de Jésus sur la montagne de la transfiguration. On pourrait dire la montagne de la métamorphose. Il est métamorphosé, transfiguré. Et en rencontrant Dieu, alors que le Saint-Esprit ôte ce voile pour qu'on puisse vraiment voir le Seigneur toujours plus, on est comme transfiguré, métamorphosé, transformé. C'est ce qui est arrivé à Moïse, même physiquement, où c'était tellement fort après qu'ils ont dû mettre... cacher cette lumière sur lui. Ça s'est produit lorsque Jésus rencontre Moïse et Élie sur cette montagne de la transfiguration. Aussi, c'était tellement puissant. Mais plus qu'une transfiguration glorieuse, visible physiquement, c'est une métamorphose, une transformation aussi intérieure. Et ce qui est intéressant avec ce mot, vraiment, métamorpho, c'est que ça signifie, le mot original, se réfère à un état permanent dans lequel un changement prend place. Ce n'est pas juste une métamorphose d'un coup, c'est un état permanent de transformation, de métamorphose, d'épanouissement, d'adaptation. C'est un style de vie connecté à Dieu qui va nous amener dans un état permanent de transformation. Waouh! C'est ça la métamorphose. C'est ça la transformation dans laquelle Dieu veut nous donner, nous faire aller. C'est ça le tour du potier qui tourne et qui nous transforme petit à petit. Et si on gratte encore un peu plus loin, on se rend compte que le mot « morpho » signifie « forme ». Apparence externe, forme par laquelle on voit une chose ou une personne. Et à un moment donné, si on rencontre Dieu, qu'il nous touche, qu'il se révèle à nous, qu'on le contemple, non seulement il va nous transformer intérieurement, une transformation, une métamorphose intérieure, mais ça va même changer la forme. Je ne dis pas la forme physique, probablement pas, alors il faut que je prie encore un peu, mais il va changer la forme, c'est-à-dire c'est comment les gens nous perçoivent ou nous voient. C'est ce qu'on dégage. Ça ne va pas juste quelque chose d'invisible, mais c'est l'apparence. Ce côté morpho qui est aussi l'apparence externe du sens premier de ce mot. Ça va être les gens vont voir un changement dans notre vie, d'une façon, ce qu'on dégage, il y aura quelque chose qui va se dégager du changement. Et pour terminer ce verset, il est dit de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Et il va le faire étape par étape, de gloire en gloire, comme ce tour du potier qui tourne de gloire en gloire. Petit à petit, il modèle notre vie, il le transforme, il passe, il touche notre vie, peut-être même dans des domaines qu'il a déjà touchés. Et c'est la force du tour qui tourne. Des fois, on dit, mais j'ai déjà pardonné à telle personne. Mais des fois, il passe au même endroit, il repasse. Il repasse, c'est pas parce qu'on a vécu une fois quelque chose qu'on a demandé, Dieu nous libère de notre orgueil ou de telle autre chose, que c'est fini. Il repasse, il nous modèle, on est malléable et il nous transforme pour sa gloire. C'est le tour du potier de gloire en gloire. Par son esprit, il affine et ça va devenir visible. Peut-être pas comme la lumière sur le visage de Moïse, mais ça va être visible parce que notre vie est transformée. Et notez que la transformation de Dieu, c'est toujours pour le mieux. Et parfois, il y a des je ne vais pas faire longtemps là-dessus, des fois, il y a des phases de transition. Parce que la chenille, ben, elle peut marcher, elle ne peut pas faire grand-chose, elle ne peut pas voler, elle doit ramper. Si elle veut voir un peu de hauteur, elle doit monter un tronc d'arbre, elle peut se balader sur une branche. Puis des fois, elle peut lâcher un fil, puis elle peut, comme Spider-Man, elle peut peut-être se balader, mais elle ne peut pas aller beaucoup plus. Mais à un moment donné, pour rentrer dans la transformation, c'est encore pire qu'avant. Parce qu'elle peut même plus se balader. Quand elle est dans le cocon, la chrysalide, elle sent peut-être, c'est intense, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis oppressée, c'est pire qu'avant. Mais c'est parce que Dieu, il veut l'amener dans une métamorphose, dans quelque chose d'autre. Une fois dans le cocon, elle n'est plus en mouvement, elle a presque l'impression des fois de mourir. La vie semble loin, et pourtant c'est pour la faire peut-être entrer dans une nouvelle dimension. Alors peut-être qu'à la réunion de l'église chenille, s'il y a un appel pour savoir qui veut être transformé, peut-être qu'elle a levé une de ses pattes, à savoir laquelle, je ne sais pas. Mais elle ne savait peut-être pas ce qui allait l'attendre après. Mais le résultat final, il est juste glorieux. C'est plein de couleurs, plein de liberté. C'est une nouvelle dimension. Et je crois que se laisser transformer, ça vaut la peine. Et c'est marrant parce qu'il y a des papillons, il leur faut une année entière pour vivre ça. Puis d'autres, c'est en un mois. Et chacun d'entre nous, ça prend plus ou moins de temps, c'est différent. Et j'espère jamais fini, en tout cas pour ma vie, d'être transformé, toujours. Et parfois, notre être, notre caractère, notre passé, notre tempérament a besoin de transformation pour que ce que Dieu désire faire au travers de ta vie, de ma vie, puisse se faire. Alors, pour terminer, puis là, peut-être que tu peux venir pour le piano, par exemple, ou le groupe. Je ne sais pas ce qu'on fera encore après, mais il n'est pas question ce matin de se changer soi-même pour être accepté de Dieu ou pour porter plus de fruits, mais en cultivant la présence de Dieu, sans s'arrêter à ça, mais en se laissant transformer, Dieu va pouvoir vraiment agir dans nos vies. Et pas juste de monter sur le tour du potier qui tourne, bah ça va nous donner un peu un tournis spirituel, et puis ça va être super. Peut-être qu'on aura, à force, on aura peut-être des visions, je ne sais pas, et c'est bien les visions. Mais à un moment donné, on va dire, Seigneur, tu peux appuyer, tu peux transformer. Je veux être dans les mains de celui qui transforme, et je veux me laisser toucher. Et c'est ce texte d'Ézéchiel qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je te retirerai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu désire faire dans nos vies. Et j'aimerais juste encore prier pour terminer. Seigneur, ton Saint-Esprit, quand tu agis, quand tu nous appelles, c'est tout dans la douceur parce que tu nous aimes tellement. Tu es ce potier qui aime tellement le vase que nous sommes. Quelque part, tu serais prêt à ce qu'on ne change pas parce que tu nous aimes déjà imparfaits qu'on est. Mais tu as envie de nous transformer pour qu'on puisse encore avoir plus de vie, plus de ta vie en nous, et qu'on puisse encore plus te glorifier et manifester cette vie autour de nous, ta vie autour de nous. Et Seigneur, ce matin, j'ai envie de te dire déjà pour ma part, je veux dire oui Seigneur, je suis d'accord d'être sur ce tour du potier et que tu puisses appuyer quand il faut. Et je veux te faire confiance parce que je sais que tu le fais avec tellement d'amour, tellement de douceur, tellement de tact, tellement au bon moment. Et même si parfois, peut-être que ça va me faire sortir de ma zone de confort ou plus mal que si j'étais juste resté dans ta présence, je sais que c'est pour le mieux. Je sais que c'est parce que tu veux transformer ma vie. Et je crois que ce matin, il y a vraiment un appel pressant du Saint-Esprit qui pose la question suivante. Est-ce que tu veux vraiment aller plus loin que juste passer du temps dans ma présence? Est-ce que tu es prêt à te laisser transformer dans qui tu es? Ça, c'est juste toi qui peux répondre dans ton cœur. Je n'ai même pas envie de faire lever une main ou qu'on se lève. Parce que ce qui compte, c'est d'y répondre, puis après, c'est de rentrer là-dedans, véritablement. Mais que tu puisses répondre dans ton cœur et dire « Oui, Seigneur, je suis prêt à ce vase d'argile qui ne veut pas s'encrouter pour que finalement je puisse pleurer la vie d'aujourd'hui ou celle de demain sans être cassé. Mais je désire être ce vase malléable, transformé dans tes mains. » Alléluia, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton amour. Viens susurrer à l'oreille cet appel de vie transformée pour ta gloire. Et j'avais juste cette pensée. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Et j'ai l'impression que Dieu voulait dire à plusieurs, c'est le début d'une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, ce n'est pas juste une saison de rafraîchissement, une saison d'un temps meilleur, oui, mais c'est aussi un temps d'élargissement. C'est aussi un temps de transformation pour le mieux. Sois puissamment touché ce matin par la présence de Dieu et entends simplement l'invitation du Seigneur à aller plus loin.